Oui, donc, dans les livres de la prophétie, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et c'est une sainteté. Dans les livres de la prière, c'est l'homme qui parle à Dieu. Et c'est une sainteté. Mais il y a une sainteté au-delà, qui est le Kodesh HaKodashim, c'est lorsque les deux se parlent. De ces deux paroles surgit une troisième, qui est la parole des paroles. Celle-là, c'est la sainteté suprême. Alors, voilà ce que est censé nous dire Akiva, Rabbi Akiva, dans notre langage. C'est que l'amour est au-delà de toutes les expériences de sainteté possibles. Parce que elle est l'expérience de synthèse. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ici, les mots ne peuvent que les valoriser. Enfin, gardons l'idée. Je voudrais ici utiliser une remarque de Madame Amadoual ainsi pour montrer à quel point cette appréhension hébraïque de l'amour est très différente de l'appréhension chrétienne. Dans les mythes de toutes les religions, on voit que l'objet de l'amour divin a toujours une naissance bizarre. C'est-à-dire qu'il ne naît que de l'un ou de l'autre, mais jamais du couple. Mais par exemple, dans le mythe chrétien qui récapitule toute cette expérience païenne à la manière occidentale, on trouve des choses analogues dans la conscience religieuse païenne à la manière orientale. Mais prenons d'abord, si vous voulez, en Occident, qui nous est plus familier, bien vous avez le Sauveur qui sort du cerveau de Jupiter, okay ? Il sort de l'un. Ou bien le Christ qui sort de la Vierge, de l'autre. Mais jamais du couple réussi. Il n'y a que l'amour de l'un à l'autre. Mais il n'y a pas, et je crois que cette remarque est très, très reliée à notre sujet, il n'y a pas l'amour vrai qui est celui de la réciprocité réussie. Est-ce que c'est suffisamment clair, s'il vous plaît ? Je ne sais pas. Et alors, au fond, on pourrait dire cela. C'est que ce chant des chants dont il est parlé, c'est celui du Ben David, c'est celui du fils, c'est celui de l'enfant, qui vient après les deux. Alors, vous voyez le parallèle entre l'enseignement de Rabbi Akiva et ce que nous venons de voir maintenant dans cette analyse exégétique. Reprenons Rabbi Akiva, ça c'est clair maintenant, je pense mieux. Amar Rabbi Akiva, en kol ha'alam kedai, ke yom shenitambo shir ha'shirim le'Israël, lefi shekol ha'ktuvim kodesh, ve shir ha'shirim kodesh, kodash. Vous voyez, c'est clair ? Oui, kodesh, kodesh, kodashim, c'est parallèle à shir ha'shirim. Oui ? Quelqu'un voulait poser une question ?
En ce qui concerne la comparaison avec les chrétiens, il y a quand même un petit tas, c'est la fameuse querelle du filioque, sur laquelle les deux églises orientales et occidentales sont affrontées si longtemps, et qui était la question de savoir si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et l'Église catholique romaine ne l'acceptait pas, et l'Église orientale l'a mis dans son dogme. Donc cette question de procession de l'Esprit du Père et du Fils, modifie légèrement ce que vous venez de dire. Ah,
c'était bien, mais je parlais de tout autre chose. C'est que le Fils ne sort que du Père, ou que de la Mère. Okay. Mais il s'agit d'un Fils qui sortirait du Père et de la Mère.
Non, mais l'idée de possession est ici.
Par les deux.
De réciprocité.
Attendez, je m'explique. La conception du Christ, tant chez les orientaux que chez les catholiques, okay, c'est une conception virginale. Okay. C'est... Donc maintenant, il faudra qu'un jour, peut-être une fois, on étudie ces choses-là pour les éclairer du point de vue de la conscience hébraïque. Qu'est-ce que finalement ces chrétiens veulent dire avec leur mystère, okay? Parce qu'à l'origine, tout ça, ça avait un sens, mais ils l'ont perdu. Par parenthèse, à l'origine, c'est des mystères. Ça avait, étymologiquement, le mot de mystère en grec, ça veut dire connaissance que n'ont que les initiés. Okay? Alors il semble qu'ils ont perdu l'initiation religieuse. Il ne reste plus que la communion. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? En tout cas, du point de vue du tchad, de leur mystère, ça veut dire que cet enfant ne sort que de sa mère ou que de son père. Vous comprenez ? Moi, ce dont je parlais, c'est d'un enfant qui sort du père et de la mère. C'est ça l'important. Donc, l'amour chrétien, je me perds dans l'autre. Et réciproquement, et l'autre se perd dans moi. Mais il n'y a pas l'amour réussi du projet du Créateur, hein, qu'il y ait un tiers être, si j'ose dire, mais alors là, vraiment, je parle en pensant, je pense en parlant, je ne vais pas le dire, qui est ce Shir HaShirim. Il y a une sainteté, la manière dont Dieu aime l'homme. C'est une sainteté absolue, c'est une. Il y a une autre sainteté, la manière dont l'homme aime Dieu. C'est une sainteté absolue, mais c'est une. Et puis il y a la sainteté des saintetés, ce qui surgit de ces deux amours lorsqu'ils se correspondent. Ça n'a jamais correspondu qu'en Israël, nous dit le Midrash. Okay? Dieu a parlé à Israël, et Israël a parlé à Dieu. Partout ailleurs, Dieu parle à l'homme et l'homme n'entend pas. Et partout ailleurs, l'homme parle à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Dieu n'a jamais parlé aux autres, et réciproquement. Là où ça a fait un enfant vraiment, c'est entre Dieu et Israël. C'est plus clair ? Vous comprenez ? Votre question ne porte pas du tout sur ce qu'a dit ici l'abbé. Pas du tout. Okay. Ou alors expliquez-vous mieux, parce que j'ai adopté pour mon analyse ce qu'a dit madame Alessi, qui me semble, du point de vue de l'histoire de la religion, est très clair. Okay. Il y a cette incapacité de réaliser l'alliance dans les mythologies. Il n'y a pas alliance. Ça sort ou de l'un, mais il n'y a pas ce qui sort de l'un et l'autre. Il n'y a pas l'alliance, vraiment. Sinon, on se forme par prétérition, enfin, par imitation de ce qui s'est passé en Israël, mais c'est abstrait, imaginaire. Ce n'est réel que dans le discours biblique. Dans le discours biblique, ce qu'il faut réussir, c'est cette réciprocité réelle qui fait apparaître ce troisième terme qui est le Shirachirim, le Kodesh HaKodashim. Partout ailleurs, ce n'est pas réciproque, c'est parallèle. C'est parallèle, mais ça ne se rejoint pas. Il y a Dieu qui aime l'homme ou l'homme qui aime Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas réuni. Prenons le cas du christianisme. Le cas du christianisme qui est bien obligé d'admettre qu'il n'y a eu de révélation qu'en Israël et par Israël. Et c'est étendu à l'échelle universelle, mais c'est dans le principe, dans la révélation à Israël. Il n'y a qu'en Israël que ça s'est passé, ça. Dieu parle et l'homme répond, il y a dialogue, vraiment. L'homme parle et Dieu répond, et il y a dialogue vraiment. Partout ailleurs, Dieu a parlé une fois. L'homme a parlé parallèle, mais il n'y a jamais eu de rencontre.
Il y a tout de même le mythe de l'Annonciation. Dieu qui s'adresse à la Vierge, qui a été choisi, qui ne se fait selon la parole. Il y a un dialogue.
Mais ça se passe en Israël.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Bon, maintenant, ceci dit, ce n'est pas réalisé. C'est mythifié. On a peur de la relation sexuelle entre Dieu et son homme. Je m'excuse du terme violent, mais c'est comme ça qu'il faut parler. On ne peut pas parler autrement. On a peur de cela. On a peur qu'il y ait mariage vraiment. Alors, on en parle symboliquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mystère ? Ça, un jour, on s'en expliquera avec eux. Parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut aider un chrétien à lire les évangiles. Jusqu'à l'origine. Vous connaissez la prétention chrétienne, que c'est lui qui doit nous aider à lire l'Ancien Testament. En réalité, c'est l'inverse. Ils n'arriveront jamais à savoir ce qu'il y a dans leur livre si ce n'est pas un juif qui leur montrera ce que ça veut dire. Je pense que c'est clair. Bon. Mais, c'est des secrets de famille. On a peur de cela. Ou alors c'est que notre discussion n'est pas très codée. Essayez de la recoder. Est-ce que c'est clair pour vous ce qui se passe là ? Je veux dire qu'il y a, ici c'est au niveau de la parole, bien sûr, il y a parole de l'homme à Dieu réciproque dans le même discours. Voilà le Kodesh HaKodashim du Shirachirim. Partout ailleurs, il y a l'homme qui parle à Dieu et Dieu ne répond pas. Et il y a Dieu qui parle à l'homme et l'homme n'entend pas. Il n'y a qu'en Israël où les deux choses se sont passées, il y a vraiment réciprocité. Ailleurs, il y a parallèle. Bon, le cas chrétien est un cas particulier parce qu'il parle du dialogue qu'il y a eu à Israël, en Israël, mais il l'a mythifié. Voilà ce que Mme Madoua veut dire très exactement. Ou bien le sauveur sort de la femme, ou bien il sort du mari. Mais il ne sort pas du mari et de la femme à la fois. Qui est le mari et la femme ? C'est Dieu et l'Assemblée d'Israël. Alors ou bien ça sort d'elle, ou bien ça sort de lui, c'est mythique. Mais c'est lorsque ça sort des deux que c'est réel. En tout cas, c'est ça la chiffre, l'exigence de l'enfant prédestiné hébraïque. Il est l'enfant du couple qui s'aime, et non pas de l'amour de l'un pour l'autre, ou de l'amour de l'autre pour l'un. Mais de l'amour, à ce troisième degré. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme inhibition d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a comme panique ? Qu'est-ce qu'il y a comme inhibition ? Je crois que c'est le mot le plus clair. C'est la peur de la moralité. Parce que c'est ça la morale, que la réciprocité soit réelle et non pas parallèle. C'est la peur de la loi, de la loi morale, okay, comme condition de l'histoire. Alors c'est le mythe. C'est la religion des sauveurs mythiques. Est-ce que c'est clair ça ? Tom.
Quel ? Qu'est-ce qu'il s'agit de chant ? Est-ce qu'on peut comparer à la musique ? Il y a deux personnes dans une partition, il y a un chef d'orchestre. et le chef d'orchestre, c'est la Hirakashem, qui fait que les deux dieux chantent de la même façon et ce son harmonieux qui sort, c'est donc l'enfant.
Oui, mais vous voyez, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'esprit et la lettre. L'idée que vous dites est absolument exacte. Mais la lettre dans laquelle vous l'avez exprimée n'est pas exacte. Qu'est-ce que vient faire l'Ayirat Hashem là-dedans? Il s'agit de Ahava. Alors dites Ahava. Mm-hmm. Vous comprenez? Pourquoi Ayirat Hashem? Ça vient du moussard. Vous avez mélangé deux thèmes dans la forme. Vous avez compris ce que je dis? Il s'agit de Ahava. C'est-à-dire il y a les deux partitions de l'Ahava de lui pour elle et de elle pour lui, et une Ahava supérieure qui les organise. Okay? Mais pourquoi vous rentrez Ayirat Hashem là-dedans? C'est un autre thème. Bien, Ken.
Oui, je voudrais vous poser des questions à propos du temps que vous employez, le temps verbal. Mm-hmm. N'est-ce pas, j'ai fait une remarque tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
Il y avait Ein, vous avez dit comme s'il y avait Aya. Et puis là, vous dites, c'est ça qui a fait un enfant. Alors, ma question, c'est, les choses se sont passées ou elles vont se passer? Il va y avoir un enfant ou il y a eu? Il y a une ambiguïté dans, à la fois dans... ce que vous dites et que je perçois à cause de notions que j'ai, n'est-ce pas, et qui sont peut-être fausses.
Possible. Écoutez, il n'y a pas du tout ambiguïté, il y a eu. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Il y a un temps du monde jusqu'au roi Salomon. Il y a un temps du monde jusqu'au jour où ce Shir HaShirim a été donné à Israël, et le monde jusque-là n'était pas Kedai. Le monde n'a pas été Kedai jusque-là. Et puis le Shir HaShirim a été donné à Israël, et le monde est devenu Kedai. Et c'est irréversible, il l'est déjà. Ensuite, le temple a été détruit. Il y a Galout. Et d'où cette situation de ce chant d'amour comme fiançailles après le mariage. Ken, mais c'est déjà arrivé. Pour rappeler Rachid. Et elle se rappelle de ce qu'il y a eu. Et c'est ça sa certitude pour l'avenir. Dans ce chant d'amour dans la Galout, elle lui dit il y a eu, il y aura. Elle dit il y a eu, il y aura. Ken, c'est cela que nous a bien montré Rachid. Et voilà ce qui est arrivé. Il y a un aller de Dieu vers le monde. Pendant les 6 jours du commencement, Dieu a fait sa part du travail. Il a aménagé le monde pour que l'homme puisse l'habiter. Et puis il y a un aller de l'homme vers Dieu. Et l'homme a aménagé le monde pour que la sainteté soit possible, pour que Dieu puisse le visiter. Et bien c'est arrivé. Et c'est arrivé en Israël irréversiblement. C'est déjà arrivé. Ça a été cassé, mais c'est déjà arrivé. Est-ce que j'ai bien répondu? Je veux dire que c'est irréversiblement que cette rencontre s'est faite. Dieu est allé vers les hommes, pour tous les hommes. Les hommes sont allés vers Dieu, tous les hommes, vers le Dieu unique. Il faudrait ouvrir parenthèse de parenthèse, quelle que soit l'idolâtrie d'un idolâtre, c'est le Dieu unique vers qui il est censé être porté, seulement il se trompe de chemin. Mais en intention, c'est vraiment pour lui qu'il se dirige dans sa marche religieuse. Okay? Mais la rencontre ne s'est faite qu'en Israël, et ça a eu lieu. C'est ça le récit de la Bible, de ce qui a eu lieu. Et ça a eu lieu, et donc nous savons que ça aura lieu. Tant que nous sommes existants, qu'Israël existe, eh bien, tous les espoirs sont permis. Vous comprenez quel est le... Je reviens à ce que je disais. La première sorte de Shir, on la trouvera dans notre tradition. La deuxième sorte de Shir, on la trouvera dans notre tradition. Mais ce Shir HaShirim, il n'y a qu'en Israël. Il y a un diouk de Rabbi Akiva. Que Yom Shenitan Shir HaShirim, les Israël. Parce que c'est en Israël qu'a eu lieu cette rencontre entre lui et elle. Lui, le Créateur, elle l'a créée. Il y a deux manières d'entendre la religion. Transcendance. Dieu transcendant s'occupant de l'homme, ou immanence, l'homme s'occupant de Dieu. La rencontre ne s'est faite qu'en Israël, dans l'histoire de toutes les religions.
Mais Rabbi Akiva dit que jusqu'à Shir HaShirim, le monde n'est pas encore Kedai. Enfin, mais pourtant, il y a eu, avant Shir HaShirim, il y a eu le Yom HaShishi.
Et alors, au Yom HaShishi, Dieu a parlé à Israël. Vous parlez du Sissivam, Ken, du Matan Torah.
Ou du Matan Torah, ou bien de la création, parce qu'il y a deux Yom HaShishi.
Non.
Enfin, il n'y en a qu'un, mais qui...
Non, attendez, je ne sais pas à quel texte vous pensez. Si vous pensez au texte de Shabbat, pourquoi il y a écrit Yom HaShishi? Pour la création, ça fait allusion au Sissivam, où la Torah sera révélée.
C'est ça, oui.
Alors, dans la Torah, on nous raconte ce que Dieu a dit à l'homme. Ça s'adresse à Israël. Et Israël a reçu cette parole. Dans les psaumes, on nous raconte ce que l'homme dit à Dieu. Ça part d'Israël et Israël a dit à cette parole. Il y a cette sainteté-là et cette sainteté-là. Elles restent encore parallèles. Mais voilà qu'elles se rencontrent dans le Shir HaShirim et que de cette rencontre procède un troisième champ de sainteté qui est le Kodesh HaKodesh. Bon, je crois que c'est maintenant suffisamment clair. Alors, ce qu'il veut comprendre, c'est un cas particulier. En Israël, c'est peut-être une imprudence, mais je ne crois pas, ça fait partie du sujet. De citer Madame Amado,
qui nous montre que dans toutes les mythologies, on nous fait sortir le fils ou du père ou de la mère, mais jamais du couple. Qu'est-ce qu'il y a comme inhibition derrière? C'est très intéressant, important d'ailleurs, à étudier. Voilà, la réponse est très claire. C'est la panique de la loi morale. Parce que c'est la loi morale qui est la loi de la réciprocité. La loi de je t'aime ou tu m'aimes, ça c'est la religion mythique. Il m'aime, je l'aime. Mais nous, nous aimons, il y a alliance, il y a droit et devoir réciproque, ça c'est la loi morale. Ça c'est la religion de la loi morale. C'est clair? Panique, avant que ça, parce que regardez quel est le postulat du polynisme. La loi est inaccessible. Si nous devions être jugés, panique. Si nous devions être jugés par la loi, nous sommes perdus. Cette intuition que le sens de l'histoire du monde, c'est la moralité, ça c'est l'hébreu et que l'hébreu. Partout ailleurs, c'est dissocié, c'est distingué. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César, la morale, la politique, la religion, la politique, rien à voir. Et cette panique pour hier, dans cette formulation chrétienne de le Dieu terrible, du Père et de la loi, tout ça, ça va ensemble dans leur formulation. C'est quoi? C'est la panique et du Père et de la loi. Et de la loi du Père et du Père de la loi. C'est de la panique. Devant quoi? Devant la loi morale. Et c'est formulé par le polynisme dès le début. La loi est vraie, absolument vraie. Il n'y a pas d'autre loi vraie qui n'ait été révélée que la loi de Moïse. Point de départ du polynisme. Okay? Et puis, mais si nous devions être jugés par la loi, Dieu préserve, nous serions tous perdus. Alors c'est pas par la loi que ça peut passer. Objection au polynisme, et pourquoi Dieu a révélé sa loi? Réponse du polynisme, pour nous faire savoir à quel point on ne peut pas l'accomplir. Il n'y a pas de panique plus grande que ça.
Mais qu'est-ce
qu'il y a derrière cette panique? La peur d'être homme.
De ne pas l'être.
Voilà.
Ou de ne pas l'être.
Expliquez.
Parce que pour être un homme vraiment, il faut pas être quelqu'un. Alors on a la peur de ne pas atteindre à ce but.
Oui, mais ça revient au même.
Ça revient au même.
Ça revient au même. Ça revient au même. Ça veut dire, vous connaissez ce thème du Midrash, très important, que jusqu'au Sinaï, il y a 26 générations. Et que pendant ces 26 générations, le monde tient que sur la grâce du Créateur. C'est une sorte de... on est encore avant la puberté, avant la majorité, avant la maturité. C'est comme l'enfant qui est à l'abri de la grâce du Père. Ça, c'est les 26 générations jusqu'au Sinaï. C'est rattaché au grand Hallel, qu'on appelle le Hallel HaMitzri, le Hallel HaGadol, pas le Hallel HaMitzri, le Hallel HaGadol, qui a 26 versets, qui est en l'âme Hallel. Au Sinaï, le monde devient majeur à travers Israël en acceptant la loi morale, la Torah. Et il y a cette peur d'être la créature majeure. Qu'est-ce que c'est que la loi morale? C'est le contrat qui relie les deux personnes, droit et devoir. Alors on préfère se réfugier dans une modalité d'amour qui est vraie mais qui est encore inférieure, de lui qui aime l'autre ou de l'autre qui aime lui, mais jamais oser entrevoir qu'un contrat.
Mais qu'est-ce qu'on fait?
C'est
clair? Qu'est-ce qu'ils ont
peur?
Qu'est-ce qu'ils
risquent? Quoi? Je vais vous dire, moi j'ai une explication, ne croyez pas que c'est une marotte, je crois que c'est une vraie explication. Cette loi-là, à qui il faut la demander? Oui, juif. C'est l'antisémitisme qui bloque. Comment demander la parole de Dieu au juif? Je crois qu'à l'échelle individuelle, beaucoup de consciences de l'humanité auraient été prêts à arriver jusque-là. Seulement voilà, sans que le monde juif. Alors ça, non. Donc ça nous renvoie à l'implication du problème. Il faut élucider ce que c'est que l'antisémitisme des vrais. Et pourquoi ils n'aiment pas les juifs?
Non, mais c'est surtout au niveau individuel que je ne comprends pas cette espèce de panique.
Je veux dire, parce qu'en réalité, bon, nous parlons de ça puisque nous parlons de ça, en réalité, lorsque j'ai étudié ce problème avec le texte de saint Paul, je me suis aperçu au fond qu'il y a là une adjonction de deux expériences radicalement différentes. L'expérience hébraïque de l'espérance, on peut être sauvé. Et l'expérience grecque du pessimisme tragique. Peut-être que je reprendrai ça dimanche. La loi est impitoyable. Mais de quelle loi on parle? C'est la loi des athées. C'est-à-dire la loi considérée comme un monstre impersonnel de principe impersonnel. Vous comprenez? C'est-à-dire la crainte de la loi, c'est ce qui reste de l'athéisme grec chez le chrétien. Parce qu'on considère la loi comme si elle n'était pas. la volonté de quelqu'un qui est le créateur, c'est-à-dire l'objet de l'amour et le sujet de l'amour. On a peur de la loi parce qu'on se réfère à elle comme si elle n'était pas la volonté de celui qui m'a engendré, le Père. Avoir peur du Père, c'est pas normal. Avoir peur de la loi du Père, c'est pas normal dans la cohérence dont nous parlons. Celui qui est l'objet de l'amour. Vous comprenez comment les deux choses vont ensemble? Le Dieu terrible de l'Ancien Testament et la loi, ça va ensemble. Et c'est la même panique et la même inhibition. C'est une position athée. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que le Créateur, c'est quelqu'un qui aime, et dont on parle lorsqu'on parle de l'amour de lui pour moi ou de moi pour lui. On se réfère à la vision logos de la loi, impersonnelle. Et la loi impersonnelle, c'est monstrueux. Donc là, il faut avoir peur. Si vraiment nous étions face au jugement des principes impersonnels, nous sommes perdus. Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes dans le monde hébraïque. Nous sommes devant quelqu'un qui a créé son fils par amour. Et le fils aurait peur du père, et le fils aurait peur de la loi. C'est la réaction d'un athée, et non pas d'un croyant de la Bible. Cette conception de la loi polygienne. Et je crois qu'effectivement, dans ce personnage-là, Paul, il y a la rencontre qui ne s'est pas unifiée entre l'espérance hébraïque et la tragédie grecque, et la conscience tragique grecque. Paul est beaucoup plus un philosophe qui parle de la Bible qu'un hébreu qui parle au grec. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et d'ailleurs, vous verrez que toutes les citations que Paul fait de la loi sont fausses. Il y a toujours un petit coup de pouce qui tourne ça du côté du logos grec. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles sont toutes fausses. Et attendez, je voudrais terminer là-dessus. Vous comprenez qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur du shirachirim. Et on accepte un chiffre. Je t'aime, tu m'aimes, mais on n'accepte pas le shirachiri. Nous nous aimons et allons. Je veux dire, comment en particulier. Ça vaut la peine de rester dans cette introduction encore aujourd'hui. Je veux dire, comment en particulier Ben Gross, vous avez entendu parler du Dr. Gross, a posé un jour ce problème en disant ceci: le commandement d'amour est difficile à admettre dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire que la loi me commande d'aimer? Il y a une contradiction philosophique, le commandement d'amour. Ce commandement d'amour, c'est la réponse qu'il a donnée, et je la donne. Ce commandement d'amour n'est possible que s'il s'adresse à quelqu'un qui sait qu'il est aimé. Puisque je sais que je suis aimé, alors apparaît le commandement d'amour. Et c'est le cas d'Israël. Et c'est le fameux verset dans Malachi. Ahavti etrem neumach. Dieu nous a dit je vous aime. Il a des raisons. Okay? Même si ça nous reste mystérieux, après tout, pourquoi nous et pas les autres? La Bible explique cela, il faut savoir. Il y a des raisons. Il nous a dit je vous aime. Eh bien, dès que je sais que je suis aimé, alors j'entends le commandement que j'ai à aimer. Je vous donnerai l'explication du Rambam sur ce mystère. Je vous aime. Il n'y a pas de mystère à l'échelle collective. C'est très clair de comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël comme identité collective. Israël en tant que peuple, c'est très clair. Le mystère reste à l'échelle de l'individu. Pour moi, toi, tel individu de cette collectivité, je peux dire, et ça a un sens, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'aime. Mais Israël comme tel, il n'y a aucun mystère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas pourquoi Dieu, jusqu'à ce que j'arrive à coïncider à cette identité collective, là c'est clair aussi, je comprends pourquoi c'est moi. Moi, ça veut dire tel juif, tel petit, grand juif, grand petit. Okay? C'est ce que je veux dire. Mais, donc, le Rav Kook nous aide à comprendre un peu plus loin ce problème. C'est la dialectique entre le klal et le prat. Au niveau du klal, ce n'est pas mystérieux du tout. Dieu a choisi Israël, la Bible a expliqué pourquoi. Et c'est au titre de l'universel, et l'universel le sait. C'est à l'échelle de chaque individu, ce privilège inouï, que je sois un individu de ce clan choisi, ça je ne comprends pas. Bon, mais c'est une modestie nécessaire. Mais il faut arriver à dépasser ça et à savoir que c'est pas pour rien.
Fin de la première bande.